C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit, v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzy. Auteur, Théodore Géricault. Peintre, 1791-1824. Français, hétérosexuel, rentier. Œuvre, les portraits de monomanes des musées du Louvre, de Gand, de Lyon, de Springfield, de Winterthur, entre 1819 et 1822. Personnage, les monomanes. Un adage de bonne tenue bourgeoise consiste à vouloir qu'on regarde les gens en face, ce qui serait une manifestation de franchise. Il existe pourtant des regards droits dans les yeux qui sont gênants d'insistance ou de jugement, à moins qu'il ne soit un clou planté dans les yeux de l'autre pour satisfaire à cette politesse, et après quoi celui qui l'a planté rêve. Et son regard devient sans pensée, la pensée se trouvant ailleurs, la passion la tire hors de toute présence matérielle du monde. C'est ce qui se passe, en l'espèce avec des regards détournés, chez les monomanes peints par Géricault. Le monomane du jeu a le regard en l'air. Le monomane de l'envie a le regard de côté, entre les paupières plissées. Le monomane du commandement militaire a le regard à la fois oblique et levé. Le monomane du vol d'enfant regarde au loin. Le monomane du vol regarde devant lui, mais le buste tourné et avec un œil plus ouvert que l'autre, lequel semble signaler une effroyable concentration de sa manie. Géricault, dont la passion était la peinture et qui ne regardait qu'elle, était dans le monde pour nourrir son art. Alexandre Dumas raconte dans ses mémoires que, lui rendant visite 8 jours avant sa mort, il l'a trouvé dans son lit en train de dessiner sa main gauche. Et Géricault lui a dit « Je m'utilise ». Mot magnifique qui montre l'artiste, vampire qui se mange lui-même quand il n'a plus la force de manger les autres. Dans l'éducation sentimentale, le peintre appelé à faire le portrait d'un enfant qui vient de mourir s'extasie, au bout d'un moment, sur la nuance de verdâtre du cadavre. Dans un de ses très rares écrits, une étude sur les prix de Rome, Géricault a écrit, à l'âge de 22 ans, « Tout ce qui s'oppose à la marche dominante du génie l'irrite ». Qui sont les monomanes de Géricault ? Pour en parler, je reçois Dominique de Fonréau, directrice de la médiation et de la programmation culturelle du Musée du Louvre et rédactrice en chef de la revue Histoire de l'art. Dominique de Fonréau, voulez-vous me dire dans quelles circonstances Géricault a peint cette série des monomanes ?
C'est quelque chose qui reste assez mystérieux. On a pensé, et plusieurs sont à penser, que ça a été peint en lien avec un médecin qui a été un peu une sorte d'inventeur de la psychiatrie moderne en France, qui s'appelait Jean-Étienne Esquirol, et qui était d'une génération un peu plus âgée que Géricault, et qui a joué un rôle fondamental, Esquirol, parce que il est à la fois quelqu'un qui s'intéresse de façon renouvelée à la maladie mentale, mais qui s'y intéresse au regard aussi de dimensions à la fois, j'allais dire, philosophiques et esthétiques. Philosophique puisqu'il écrit un traité qu'il nomme donc des passions, hein, considérées comme cause, symptômes et moyens curatifs de l'aliénation mentale, et puis esthétique puisque il écrit plusieurs ouvrages qu'il fait illustrer par différents dessinateurs. Donc sans savoir exactement d'où vient la commande, on pense néanmoins que ce soit en lien avec Esquirol. Esquirol, c'est un personnage vraiment absolument majeur, hein, qui a joué un rôle très important pour la psychiatrie moderne. Hein. D'une certaine manière, avec quelqu'un comme Esquirol, le fou, ce n'est pas forcément celui qui serait maudit de Dieu et qui porterait une tare comme une sorte de péché originel renouvelé. C'est quelqu'un, au sens propre, qui est aliéné.
Mais il y a aussi dans l'histoire un autre homme dont le prénom s'inverse comme s'il s'emboîtait d'ailleurs avec celui d'Esquirol, qui est Étienne Jean Georget.
Absolument.
Et qui est, je crois, un élève d'Esquirol.
Qui est un élève d'Esquirol.
Et c'est avec lui que Géricault est
alors,
en contact.
Alors ça, c'est vraiment on ne sait pas précisément. Et donc on a pensé à Georget parce qu'ils sont un peu plus proche de Géricault en âge, qui est un élève effectivement d'Esquirol. Mais ce qui est intéressant avec Géricault, aussi qu'il faisait partie de ceux, et comme Delacroix après lui par exemple, hein, qui se sont beaucoup intéressés à l'étude des maladies mentales de leur temps.
Mais donc on ne sait absolument pas comment, s'il y a eu une démarche, que ce soit Géricault malade ou qu'il ait connu un de ses deux médecins ou qu'il ait demandé, est-ce qu'il aurait pu, d'après ce qu'on connaît de lui, est-ce qu'il aurait pu demander un rendez-vous dans une des dites cliniques psychiatriques pour peindre des fous ?
Moi je pense que sans doute, alors là vraiment ce que je dis c'est que ce que je pense,
oui,
moi,
sûr,
puisqu'il y a plusieurs
sûr.
Hypothèses, mais ce que je pense moi c'est que sans doute août, la commande a pu lui être faite. Parce que ce dont on se rend compte par rapport à ces figures, hein, c'est que elles sont quand même toutes sur le même fond sombre. Elles sont toutes avec le même type de personnage. Il y a deux femmes, trois hommes, mais elles sont quand même sur le même type de personnage, avec des vêtements qui sont d'ailleurs plutôt des vêtements plutôt bourgeois. Hein, oui, donc oui, c'est pas du tout des gens qui seraient
en
camisole de force ni quoi que ce soit. Donc l'unité de la présentation, du fond, du type de la représentation, fait dire que peut-être ça a été l'objet d'une commande.
Alors, il y a une chose, là je m'adresse à la spécialiste de peinture, c'est que j'ai lu que Géricault utilisait une huile très cicative, c'est-à-dire qui accélère le séchage, laquelle huile empêche qu'on reprenne très facilement les peintures le lendemain, ce qui voudrait dire aussi quelque chose pour le choix de ces peintures, c'est-à-dire il les a faites rapidement et à la suite probablement.
Et peut-être qu'il y en avait d'autres.
Alors je voudrais, Dominique de Fonréau, qu'on parle de la spécificité de ces portraits de fous. Vous avez cité des dessins d'aliénés pour Esquirol. J'en ai trouvé d'un certain Georges Gabriel. Alors là, je suis très ignorant et je ne sais pas qui est Georges Gabriel.
Georges Gabriel était un illustrateur, mais voilà. pas un grand artiste.
Et donc, il existait déjà des portraits à usage médical, d'aliénés ou de fous. Ce qui m'a frappé, c'est que j'en ai vu plusieurs, ils sont quasiment tous en position, en situation de contrainte. Ils sont ou ligotés, ou attachés, ou dans une camisole. Et quand ça n'est pas des portraits à usage médical, la peinture elle-même, juste avant avant Géricault, et je pense en particulier à la Maison de Fous de Goya, dont les dates sont 1812-1819, là, on voit des fous dans une cave à demi nus, c'est très dramatique. Et Géricault enlève cet aspect dramatique.
Il l'enlève ou il le renforce ? On pourrait peut-être se poser la question.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne joue pas sur les accessoires clichés de la folie.
Non, je suis d'accord avec vous. Il l'enlève parce qu'on n'est pas sur ces clichés de la folie. On n'est pas, vous citiez Goya, où il y a quelque chose de terrifiant. On est aux enfers chez Goya, en fait. On est dans la maison de fous, mais on est aux enfers. Chez Géricault, l'enfer est intérieur, si je peux le dire ainsi. Et la blessure est invisible. Et ce que je trouve très fort chez Géricault, c'est que, justement, cette folie, elle est intérieure et elle est peut-être encore plus forte parce que elle s'exprime justement par ce regard que vous avez souligné avec beaucoup de justesse au début de l'émission, ce regard qui est oblique et qui à la fois d'une certaine manière qu'on cherche à saisir nous en tant que spectateurs et qui nous échappe et donc comme échappe peut-être la raison de ces monomanes.
Alors en même temps, est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes en train de nous illusionner à partir de titres qui ont été donnés à des tableaux, parce que est-ce que ce sont des types ou est-ce que ce sont des êtres? Parce que si on regarde bien ces tableaux, à l'exception de la monomane de l'envie qui est très caractérisée, on pourrait presque dire que si on changeait les titres, on verrait autre chose. Si on intitulait le kleptomane portrait d'un franciscain, on le trouverait admirable, non? Ou j'exagère?
C'est difficile de dire si vous exagérez. Évidemment que c'est très difficile de se poser la question autrement parce que ces œuvres sont connues maintenant depuis les années 1860 sous ce titre-là. Je les ai comparées avec... mentalement avec des portraits de la même époque, par exemple d'un Boilly, par exemple, qui fait beaucoup de portraits de ce type-là, de bourgeois qui peuvent habiller pratiquement de la même façon d'ailleurs que ceux-là. Il y a quelque chose toujours dans la pose et dans les mimiques de visage de plus apaisé, de plus assuré. Il y a quand même quelque chose d'un tout toujours un peu étrange. On parlait tout à l'heure de la monomane de l'envie, mais si on parle de celle par exemple du Louvre,
c'est la monomane du jeu.
C'est celle avec le bonnet blanc et puis le grand élément. Et celle-là, elle a le regard moins oblique, mais en même temps, elle a un côté un peu rentré comme ça.
Passé sur elle-même.
Que si on compare, je trouvais que Boyer est une bonne comparaison parce qu'ils sont à peu près contemporains. Les hommes et les femmes que peint Boilly ressemblent, mais avec quelque chose de plus assuré, de plus assumé d'une certaine manière.
Pour me contredire moi-même et pour compléter ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'ils sont habillés en bourgeois et peut-être que les titres nous induisent en erreur, mais en même temps, il y a dans ces tableaux quelque chose d'assez frappant et qui montre un dérangement probablement, c'est pour moi la pilosité. Ce sont des gens mal coiffés, parfois mal rasés, et donc là, c'est à mon avis, là qu'on voit beaucoup un petit pas de côté, justement, en dérangement, non ?
Surtout pour le début du 19e siècle. Ce qui me fait dire aussi, peut-être, que, il y a quand même ce lien-là avec la folie, c'est que c'est un sujet que Géricault a en tête, cette idée de la folie des hommes, que ce soit d'une certaine manière dès le cuirassier blessé quittant le combat de 1814, dont la blessure est invisible, comme la folie de cela est invisible, ou que ce soit évidemment peut-être plus encore des dessins préparatoires que moi j'aime beaucoup pour l'assassinat de Fueldès, vous savez, le procureur de l'Aveyron, un tableau d'histoire que Géricault avait envisagé avant de finalement se décider à exécuter le radeau de la Méduse en 1819, et ces dessins sont d'une noirceur absolument absolue, font peur encore aujourd'hui quand on les regarde, ils sont conservés notamment au musée des Beaux-Arts de Lille, et on est là déjà dans cet univers du franchissement, de la folie.
Alors, est-ce que vous parliez des tableaux de Boyer qui sont très souvent les portraits des personnes seules, en tout cas pas les portraits familiaux, plutôt des portraits assez serrés dans mon souvenir et pas des très grands formats.
Plutôt assez serrés.
C'est ça. Voilà. Et là, ce qui me frappe dans la série des tableaux dont nous parlons, de Géricault, c'est que ce sont aussi d'assez petits formats et où les monomanes sont très serrés dans les bords de la toile, très rapprochés comme s'ils étaient enfermés dans quelque chose. Est-ce que je me trompe? Et d'ailleurs, avec une unité, alors que Géricault est un peintre en général de couleurs assez riches, là avec monocolore comme ils sont monomanes presque.
Oui, ça c'est tout à fait vrai, et c'est ça aussi qui me fait dire qu'il y a pu y avoir une commande, parce que d'une certaine manière, si on les regarde tous les cinq ensemble, enfin si on les regarde, on met leurs images toutes les cinq ensemble, on se rend compte tout d'un coup de cette unicité, et donc de peut-être quelque chose qui aurait pu, alors on ne peut que livrer des hypothèses, servir à un médecin qui, en les observant, aurait vu là des signes, que ce soit cliniques ou que ce soit d'autres signes qu'il recherchait. Ça, c'est difficile à dire, évidemment.
Nous allons maintenant entendre Claude Nougaro interpréter Un grain de folie. La chanson date de 1971 et est extraite de l'album Sœur âme.
Dans l'âme, j'ai un grain de folie. De beauté sur la tresse de ces deux petits grains dans ce grand lit, lequel va germer, princesse? Est-ce mon grain de fou, mon grain de feu, ou est-ce ton grain de peau, ton grain de poudre? Et dis-moi, si nos deux grains réunis, ça mettait le feu aux poudres? Dans l'alphabet du corps, le Q est la consonne qui m'occupe toujours particulièrement. Et même si tu te paies les yeux de diamant, mes yeux lâchent tes yeux pour lécher ta consonne 100 000 fois d'accord. Un chien, je suis un chien, ma patte se raidit et je barre à la une devant l'astre chevelu ensorcelé de lune. Ce papillon gonflé, trouant toutes mes nuits.
Dominique de Fonréau, sans quitter les monomanes de Géricault, je voudrais que nous parlions de chevaux. Pour moi, ces têtes de monomanes dont nous parlons depuis tout à l'heure ne sont pas très différentes de la fameuse tête de cheval blanc du même Géricault, en très gros plan, qui est au Louvre. Ce cheval a l'air d'une espèce de dieu mythologique et mystérieux, ce cheval a l'air d'un fou. Et je vous dis ça, je fais cette analogie pour vous demander si en réalité, dans ces tableaux de monomanes, Géricault n'essaierait pas de chercher le mythique et la mythification.
Ça, c'est la grande question de Géricault, d'une certaine manière, et surtout quand on parle d'homme et de cheval. Avec Géricault, finalement, on ne sait jamais tout à fait si la représentation, enfin du moins le personnage représenté, est homme ou cheval ou les deux. Enfin, il y a quelque chose qui renvoie évidemment à la figure du centaure, mais plus encore de cela à cette part à la fois, comment dirais-je, domestique et civilisée qui serait celle de l'homme et celle plus sauvage qui serait celle du cheval. Et l'exemplaire, je pense, pour Géricault, c'est son magnifique Mazeppa, qui est dans une collection privée.
Décrivez-le.
Donc le Mazeppa, absolument. Le Mazeppa, c'est un donc lié à un poème de Byron. Donc c'est ce prince qui est condamné et il est envoyé, en fait, il est attaché à un cheval qui un cheval non dressé, donc il l'emporte dans la nuit. Et Géricault l'a représenté de telle façon que finalement le corps de l'homme sur le cheval et le cheval se confondent à la fois par les traits et par la couleur, et il l'emporte vers la nuit, et là de nouveau cette nuit qui peut être celle de l'enfer, qui peut être celle de la terreur, qui peut être celle du sombre. Donc il y a quelque chose dans cette représentation chez Géricault toujours de l'homme ou du cheval, toujours extrêmement complexe et qui joue effectivement sur quelque chose qui serait à la fois une mythologie universelle et une mythologie personnelle. Quand on parle de Mazeppa, c'est plutôt une mythologie personnelle, mais quand on parle par exemple de la course des chevaux libres de Rome...
Qu'est-ce que c'était des chevaux libres ?
C'était des courses en fait comme le palio de Sienne aujourd'hui, c'est-à-dire des chevaux qui sont entraînés à la course et qui sont portés, qui sont montés souvent à cru. Et Géricault s'intéresse beaucoup à cette course, et quand il la représente, il donc avec ces hommes qui retiennent des chevaux, qui sont des chevaux extrêmement puissants, qui sont des chevaux magnifiques, il réussit, et avec une maestria exceptionnelle, à être à la fois en lien avec l'antique, puisque ça obéit à cette idée de frise et donc à cette mythologie antique, et en même temps à une puissance où on ne sait pas finalement si la puissance et la sauvagerie est plutôt du côté du cheval, que de celle de l'homme. Et donc c'est ça aussi qui est très intéressant. On peut effectivement faire cette analogie avec les monomanes si on y revient, parce qu'il y a finalement ce qui serait à la fois de sauvage et de pondéré dans chacun des êtres humains, et aussi de clair et d'obscur.
Et puis aussi la comparaison avec les chevaux, il y a aussi la question du mutisme. C'est-à-dire qu'on sent que ces personnages de monomanes, là aussi je fais de l'extrapolation, mais par rapport à Boyer, on sent bien que ce sont des gens, comme vous disiez, assurés, détendus, et qui pourraient parler, qui sont dans une situation sociale. Et là, on a ce sentiment d'associabilité et de mutisme qui les fait ressembler à des chevaux.
Ça, de façon tout à fait évidente avec cette idée. Et puis il y a aussi cette distance. À la fois cette proximité et cette distance que je trouve très intéressante.
D'ailleurs, vous le mentionniez tout à l'heure, le premier, je crois que c'était le premier tableau de Géricault, le cuirassier qui tend le feu, qui représente donc un cavalier qui retient son cheval frémissant. Et j'ai l'impression que Géricault est un peintre, je fais référence à ce tableau-là, mais aussi au monomane, est un peintre des passions retenues. On dirait que les monomanes, au moment où il les peint et comme il les montre, ont cet aspect ou frémissant, ou à l'arrêt, ou prêt à bondir. Il y a aussi cette espèce de passion retenue, prête à la menace. Est-ce que je me trompe ?
Il y a à la fois cette passion retenue et en même temps qui peut aller jusqu'à, comment dirais-je, à quelque chose d'une explosion de la passion, si on pense à ce que j'ai tout à l'heure sur l'assassinat de Phoélès, ou même au radeau de la Méduse, parce que le radeau de la Méduse, on sait que les hommes qui sont, et ils les montrent ainsi, sont morts de faim, se sont éventuellement nourris de cadavres, enfin c'est des éléments qui sont connus, et d'une certaine manière c'est vrai aussi pour une œuvre qui est un dessin qui n'a strictement rien à voir avec les monomanes dans le sujet, mais qui est Léda et le cygne, qui est en partie inspiré par Michel-Ange, et où Léda et le cygne s'interpénètrent tellement que là, d'une certaine manière, la passion, elle est à la fois contenue par les lignes de l'œuvre, du dessin, mais en même temps prête à surgir et à être une déflagration absolument extraordinaire. Il y a quelque chose d'incroyablement puissant chez Géricault de ce point de vue-là, dans beaucoup de ses œuvres.
Il y avait chez lui probablement une passion, je mentionnais dans mon introduction ce que dit Alexandre Dumas et cette espèce de passion qu'il a eu de peindre jusqu'à la fin en s'utilisant lui-même. Il y avait chez lui quelque chose de bord du forcené, en tout cas de jusqu'au boutisme. Il y a une anecdote qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'un jour qu'il se trouve en Normandie, il était normand mais il a grandi à Paris, il se trouve en Normandie, il décide de rentrer à Paris, il achète un cheval et il force tellement le cheval sur la route que le cheval meurt en chemin.
Oui, il y a quelque chose chez lui. C'était un personnage. Je crois qu'il faut aussi avoir à l'esprit qu'il séduisait tout le monde. Ils étaient tous complètement séduits par...
Pardon de vous interrompre. Il faut dire que d'ailleurs, il est mort très jeune et qu'à l'époque où dont nous parlons, il avait 25 ans.
25 ans, oui, absolument, parce qu'il meurt très jeune. Et donc, là, cette fois-ci, il a tué le cheval, mais à la fin, c'est le cheval qui l'a tué, puisqu'il meurt malheureusement des suites d'une infection, enfin d'une septicémie, je pense, liée à une chute de cheval. Donc, il y avait chez lui, c'était un homme de passion, c'était un homme qui vit des passions amoureuse pour quelqu'un qui était sa tante, quand même.
Donc, il a eu un enfant d'elle.
Donc c'est pas tout à fait normalement ce qu'on fait dans la... C'est pas exactement comme ça que l'on fait normalement dans une famille bourgeoise du début du 19e. Et je pense qu'il fascinait ses contemporains, à la fois par sa grande beauté, on sait que c'était un homme de grande haute stature, très bel homme, et aussi par cette capacité d'aller jusqu'au bout de ses propres passions. Et quand on réfléchit à ses premières expositions, en 1812 puis en 1814, il est vraiment tout jeune, c'est un tout jeune homme, c'est-à-dire que il arrive à quelque chose d'assez stupéfiant, en fait, avec une liberté considérable. Si on peut
dire comme ça. En fait, ce que vous venez de dire m'enchante, Dominique de Font-Réau, parce que ça correspond à une idée très forte que j'ai, je ne sais pas si elle est juste, mais je l'ai, qui est de la fusion de l'art et de l'artiste au bout d'un certain nombre d'années. Et vous venez de citer cette chose très frappante, c'est que il a tué le cheval et après il a été tué par le cheval, mais de la même façon, vous avez parlé avant de la fusion du cheval et de l'homme dans Mazeppa et de la femme et du cygne dans l'Edda. Donc finalement, un grand artiste finit par ressembler à son art.
Surtout Géricault, et d'une certaine manière, les monomanes en font partie, c'est-à-dire que les monomanes sont, et ça, il y a plusieurs de mes collègues historiens d'art qui développent d'ailleurs des thèses tout à fait intéressantes par rapport à ça, ont une telle importance parce qu'elles correspondent tout à fait au mythe de Géricault, et au mythe de Géricault tel qu'il était déjà construit au moment de leur découverte et tel qu'il est toujours présent aujourd'hui. C'est-à-dire que si ça avait été des œuvres de quelqu'un d'autre, je sais d'ailleurs, bon, je sais pas, on pourrait gloser sur plein d'autres artistes, sans doute les tableaux n'auraient pas eu cette force-là. Mais là, ils correspondent exactement à ce qu'on attend. Cet homme qui va jusqu'au bout et qui finit par mourir de sa passion pour le cheval, très jeune, il a une trentaine d'années.
33 ans,
oui, c'est ça, c'est un tout jeune homme. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est une mort cruelle qui désespère l'ensemble de la génération romantique.
Est-ce que vous diriez, vous avez parlé tout à l'heure du radeau de la Méduse où on voit cette pyramide de cadavres sur laquelle se dressent les vivants pour appeler au secours, est-ce que vous diriez qu'il y a une part de morbidité dans Géricault ?
C'est compliqué parce que la morbidité, c'est quelque chose qui, comment dirais-je, renvoie à mon sens, à moi, sur quelque chose de plus voyeuriste qu'il ne l'était. Je pense que chez lui, il y a quelque chose de plus intériorisé. Alors là, vraiment, je m'exprime sur je pense. Hein, ça peut évidemment être discuté. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus intériorisé, d'une certaine manière, à la fois de plus intériorisé et aussi de plus distancé. C'est ça qui m'intéresse beaucoup chez Géricault. C'est que chez les monomanes, la folie, elle est intérieure. Chez le cuirassé blessé dont on parlait tout à l'heure, la blessure, elle est aussi intérieure. On n'en sait rien. Donc, c'est vraiment... Là, ça m'intéresse beaucoup, ce rapport à soi. Et en même temps, il y a une dimension un peu clinique. C'est pour ça aussi qu'on peut aussi penser qu'il a eu ce rapport-là avec les médecins. Quand on pense, par exemple, aux fragments anatomiques du musée de Montpellier, du musée Fabre de Montpellier.
Ses membres entremêlés.
Voilà, ses membres entremêlés.
Décrivez un peu ce que c'est.
En fait, ce sont des membres entremêlés coupés que Géricault est allé peindre sans doute à la morgue et qui lui ont servi comme étude, notamment pour le radeau de la Méduse. Et là, il y a une dimension à la fois... d'une très grande noirceur, mais qui est moins de la morbidité avec un rapport au voyeurisme, quelque chose dont finalement de cette dimension aussi clinique d'observation.
Je voudrais que vous me racontiez l'histoire de ces portraits, parce que nous en parlons, ils ne sont pas abstraits. Où étaient-ils? Que sont-ils devenus au fil du temps?
Alors l'histoire, je trouve l'histoire assez merveilleuse, parce que ces portraits sont retrouvés en 1863 à Baden-Baden par quelqu'un qui n'est pas n'importe qui est Louis Viardot, qui est critique d'art et qui est aussi l'époux de Pauline Garcia, qui est une grande cantatrice de son temps, qui est elle-même la sœur
de
la Malibran. Donc Viardot les retrouve chez un médecin qui est un de ses amis, qui est un médecin thermal, mais qui a été l'élève des médecins Georges Esquirol, donc c'est qu'on évoquait tout à l'heure. Et du coup, c'est Viardot qui trouve ces peintures-là, qui s'enthousiasme tout de suite parce que c'est Géricault, que ça l'intéresse beaucoup, et qui écrit une lettre.
Pardon, ils sont signés, ces tableaux?
Non, ils ne sont pas signés, mais d'abord Viardot lui-même l'est, puisqu'il est critique d'art, et puis surtout, c'est parce que, vu le témoignage, est donné par
le médecin propriétaire.
Et il s'enthousiasme tout de suite, il écrit une lettre à Charles Blanc, lui-même critique, qui est publié dans la Gazette des Beaux-Arts, et c'est lui qui les désigne avec moult précisions, comme les monomanes qu'on a indiqués tout à l'heure. Et comme on l'évoquait brièvement tout à l'heure, c'est aussi par ce lien à Géricault qui prennent une telle force en fait immédiate ils correspondent au mythe qu'on attend de Géricault. Surtout qu'à ce moment-là, on est en 1863 et que cette étude-là de la psychologie n'a fait que se développer et que peut-être, et ça c'est un point intéressant à souligner, le fou et l'artiste sont des figures qui peuvent s'entremêler par rapport à ce que se distingue d'une culture bourgeoise, c'est-à-dire que on retrouve là une dimension qui est aussi une dimension très profonde à cette époque-là.
Alors Dominique de Fonréau, je voudrais que vous couvriez la tête de cendre parce que votre musée, le Louvre, je crois, a refusé les monomanes. Pourquoi ?
Ouais. Bah, je pense que c'était quelque chose à ce moment-là qui n'était pas acceptable pour rentrer. Enfin, je veux dire, je pense que c'était dans une collection à ce moment-là. Je veux dire, après Dieu merci, il y en a un qui est au Louvre et puis donc un qui est à Lyon. Donc ça, c'est vraiment très bien.
Donc, pardon pour continuer. Donc ces tableaux ont été retrouvés par Viardot. Ils ont été vendus.
Il y a eu une succession de propriétaires, voilà, et puis pas les mêmes d'ailleurs. D'accord. Ils ont été.
Et est-ce qu'à ce moment-là, quelqu'un a pu s'assurer qu'il n'en avait peint que 5? Parce que certaines relations disent, et je crois que Viardot est fautif de ça, c'est lui qui dit qu'il y en aurait eu 10.
Non, c'est lui qui le dit, et mais ça, personne n'en sait rien.
Je voudrais dire qu'on dise très vite que, voilà, c'est des tableaux passionnants, mais que bien des années après avoir eu les peintres peignant les fous, il y a eu les fous peignants. Et Jean Dubuffet en particulier nous a appris ça, et on est passé à un degré ultérieur de la compréhension de la folie qui fait qu'elle n'est pas si folle puisqu'elle peut peindre.
C'est ce que je trouve très intéressant dans la démarche des médecins qu'on évoquait tout à l'heure, hein, toutes ces grandes Pinel, Esquirol, Georges, c'est ce rapport à l'art et qu'on évoquait aussi tout à l'heure que Charcot a continué. Charcot était lui-même un grand amateur d'art. Les peintres suivaient ses leçons à la Salpêtrière. Il était, on le sait par exemple, collectionneur de Delacroix, hein, des carnets du Maroc qui conservés au Louvre avaient appartenu à Charcot. Et que je pense que là... s'est mis en place et de façon très intéressante et dans l'étude de la folie ce rapport-là aussi à l'expression artistique et dont Freud est évidemment qui connaissait tout ça bien évidemment est une des expressions très très grandes, c'est-à-dire que on peut dire beaucoup de choses sur la psychanalyse, je suis pas du tout la bonne personne pour en parler, mais ce dont on est certain, c'est que dans le rapport de Freud à l'art, aux beaux-arts, comme à l'écriture, il y a quelque chose d'absolument passionnant. Et finalement, Dubuffet, en s'intéressant à l'art des fous, à l'art brut, hein, et en rendant possible d'ailleurs une fondation d'art brut et un musée d'art brut qui est situé à Lausanne, à passer un stade plus loin dans cette finalement association de l'artiste qui, par sa représentation elle-même et par sa manière de se détacher de la commune, de l'habituel, du commun, du bourgeois, devient aussi une forme finalement d'aliéné ou de fou. Et ça, c'est ça que je trouve très intéressant. Et c'est quelque chose qui a intéressé Dubuffet, qui a intéressé Géricault, mais on pourrait parler du désespéré de Courbet, hein, par exemple, hein, de cet autoportrait inspiré par les passions, hein, et par les passions de Lebrun, où Courbet se représente comme cela en plein cadre aussi, complètement, sans avoir vu les monomanes à ce moment-là, puisqu'ils n'avaient pas été retrouvés, et qu'il appelle le désespéré ou le fou de peur. Donc il y a vraiment quelque chose, je crois, de très intéressant de ce point de vue-là.
Dominique de Fonréau, que vous ont appris les personnages des monomanes de Géricault ?
Ce qui m'ont appris, c'est que il faut toujours se méfier du regard qu'on pose sur les êtres et que les êtres posent sur vous. C'est-à-dire que finalement, dans cette manière que l'on a de regarder l'œuvre et d'être regardé par ces œuvres, puisqu'elles nous regardent, hein, vous évoquiez ça tout à l'heure, il y a quelque chose qui, au lieu, comment dirais-je, d'être univoque et... bref, est quelque chose qui joue sur toute l'équivoque possible et dure aussi longtemps que possible.
C'était Personnage en personne, le 63e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de James Bond créé par Ian Fleming dans Casino Royale.
Comme si j'étais assis là-haut paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attaché de production Daphné Abgral, prise de son Valérie Lavalard.
De ma vie, le paradis acquis.
Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
Un grand jeudi. Tous les jours, paradis. De l'autre côté de la vie.